Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 2 juin. Mais oui, 2 juin, c'est
étonnant.
Pas le 2 octobre,
juin,
le 2 novembre,
hein?
2 juin. Petite température d'automne.
Oui, j'ai retrouvé mes jeans longs, moi.
Beau temps pour être avec nous, hein?
Très beau temps.
Absolument, la meilleure chose que vous pouvez faire. Écoutez-nous, on va vous parler de voyage, de nature, de science. Ben, je suis avec mes complices, Marie-Adam.
Bonjour.
Et Yvan.
Bonjour.
Pendant que André se promène dans les Europes.
Oui, puis on ne sait pas quelle température elle a.
Ce que j'ai vu en France, en tout cas, c'était pas magnifique. J'ai vu des températures de 11 degrés
c'est
autour
frais.
De ça. Ça nous ressemble
oui.
un peu. Ça nous ressemble un peu. Est-ce que ça nous console? Bon.
Oh, excusez mon rire.
Le soleil viendra. Marie,
oui,
de quoi tu nous parles?
Alors, je vous parle dans un premier temps d'un bras artificiel qui est actionné par la pensée.
Oh!
Et des limites de Google pour s'auto-diagnostiquer.
Bien!
Oui, et dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire pour aider les arbres qui sont sur nos rues.
Oui, parce qu'ils ne sont pas toujours en santé. J'ai parlé à un certain moment de la grille du frêne en particulier. Mm-hmm. Et ils sont menacés, hein, souvent. De ton côté, Yvan?
Moi, un sujet scientifique. D'abord, la saine critique de sujets qui touchent la science, mais de la part de gens qui ne sont pas nécessairement des scientifiques. Et le deuxième sujet, je retourne au voyage, mais on va voyager avec une personne qui a des problèmes de vision et d'audition.
Oui, ben, ce qui ne les empêche pas de voyager. Hein?
Non, mais elle nous donne des trucs assez intéressants, vous allez voir.
Bien, bien.
Et toi, Michel?
De mon côté, vous savez qu'il y a des édifices, il y a des choses colossales qui sont en train de se construire. J'en fais une introduction en vous parlant du 21e siècle et de la démesure dans ces grands chantiers du monde. Et ensuite de ça, des croisières. C'est la période des croisières. Bon, pas seulement, c'est ici, on a l'année longue maintenant. Hein? Et je vais vous donner de bonnes raisons de partir en croisière.
On n'est pas chaud aux croisières.
Vous allez voir, je vais vous convaincre. Restez avec nous et vous allez tout apprendre.
D'accord. Alors, le premier article que je vais vous lire aujourd'hui, c'est une saine critique de la science. C'est un article écrit par Étienne Plamondon-Aimont, qui est collaborateur au journal Le Devoir, et ça est paru le 23 mai 2015. Est-ce qu'on peut faire une critique de la science en étant en dehors des disciplines, comme citoyen, sans se faire accuser par les scientifiques d'être contre la science? Alors, Florence Piron, qui est professeure au département d'information et des communications de l'Université Laval, refuse de voir la recherche s'enfermer dans une tour d'ivoire. Elle mène d'ailleurs, aux côtés d'une chercheuse sénégalaise, le projet SOA. Il s'agit d'un réseau d'universitaires du Québec, d'Haïti et de l'Afrique francophone intéressés par la science ouverte, une démarche qui s'ouvre notamment aux savoirs traditionnels et locaux, fait appel à la contribution de non-scientifiques dans le processus de recherche, en plus de donner libre accès à la littérature et aux données scientifiques. Si la science, c'était la vérité, pourquoi ferait-on des recherches? On fait des recherches parce que, justement, on doute. L'affirmation semble aller de soi, mais Mme Piron observe que certains scientifiques acceptent la remise en question lorsqu'elle vient de collègues ou de pairs, mais qu'ils font la sourde oreille lorsque des doutes sont émis par des acteurs de la société civile ou par des chercheurs associés à d'autres disciplines. En somme, l'expert se présente souvent en société comme le détenteur d'une vérité.
Qui nous donne l'impression qu'ils sont dans une tour d'ivoire, justement.
Oui, effectivement. Des demi-dieux, un peu.
Oui.
Or, la science propose des interprétations et des modèles basés sur un état des connaissances et du monde qui bouge continuellement. Elle souligne aussi que la science constitue un produit de la culture. Il en va de même des cadres normatifs de la science, des processus scientifiques, des règles encadrant la recherche et des politiques de financement de la science qui ont évolué au fil du temps, au fil des critiques et sur lesquelles la société a encore son mot à dire. La critique doit être argumentée et rationnelle. Le science bashing n'est pas de la critique et ne nous intéresse pas, précise-t-elle. Ce sujet de l'espace accordé à la critique s'avère brûlant d'actualité. Des parents ont récemment refusé de faire vacciner leurs enfants. des maladies comme la rougeole ont refait leur apparition.
Oui, ça a suscité des réactions qui ont été souvent très, très émotives.
Oui, parce que quand on a un enfant, on veut vraiment son bien. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est inacceptable que des scientifiques disent que tout ça, c'est parce que les citoyens sont ignorants, juge Mme Piron. Les citoyens expriment des doutes et c'est parfaitement légitime que la science soit tout le temps soumise aux doutes. Ce que les scientifiques devraient se dire, c'est qu'il y a des choses qui amènent les citoyens à douter d'une pratique dont ils ne doutaient pas auparavant. Que s'est-il passé? C'est ça la question qu'il faut poser. Elle évoque les dérives des compagnies pharmaceutiques ou les histoires de conflits d'intérêts dans les milieux de recherche relatées dans les médias comme possible explication de cette méfiance. Madame Piron ne se dit pas contre la vaccination, bien au contraire, mais elle s'affiche contre l'arrogance des scientifiques qui veulent à la fois que les citoyens soient informés et qu'ils ne critiquent pas. On peut très bien être pour la vaccination en général, trouver que c'est une invention extraordinaire qui a sauvé des millions et des milliards de vies, mais se poser des questions sur l'arrivée de nouveaux vaccins et la validité d'anciens vaccins parce que les conditions environnementales ont changé. Selon elle, les scientifiques doivent se demander ce qu'ils projettent dans l'espace public, répondre aux questionnements et expliquer mieux les études sans juger avec condescendance ceux qui émettent des doutes.
Est-ce qu'il y a des exemples d'interprétations controversées?
Oui, justement, on en vit une présentement. Certains acteurs sèment le doute au sujet de constats scientifiques pour satisfaire leurs intérêts politiques ou financiers. Plusieurs Québécois l'ont découvert en novembre dernier, lorsque des affiches publicitaires de l'organisme albertain Friends of Science prétendaient que le soleil était la principale cause des changements climatiques et non le CO2 ou l'activité humaine.
Profondément scientifique, ça.
Oui, effectivement. Sébastien Weisenberger, professeur en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, s'est attardé à cette question. En France, par exemple, des scientifiques bien que controversés défendent ce point de vue à travers des publications scientifiques ou lors de débats à l'Académie des sciences. Cette approche permet de confronter les idées et d'améliorer les théories, juge-t-il. En revanche, aux États-Unis et dans le Canada anglophone, il affirme que les industries pétrolières et du charbon financent des think tanks ou des organismes dont les messages entrent en contradiction avec le consensus scientifique au sujet des changements climatiques, souvent en s'appuyant sur des recherches biaisées pour servir les intérêts industriels.
Ce qui était le cas dans la question des vaccins, hein? Faut pas l'oublier.
Aussi.
C'est une recherche qui était totalement biaisée, aussi, qui a influencé l'ensemble particulièrement de l'Amérique.
Puis même en la retirant, ce message-là maintient.
Le tort était fait.
Ouais. Ça devient plus de la propagande que de la science, dit le professeur. C'est là qu'il devrait y avoir une ligne de démarcation, en ne présentant pas comme de la science ce qui n'en est pas. En décembre dernier, M. Weisenberger a signé une lettre du regroupement contre la désinformation climatique mise sur pied par un étudiant de l'UQAM qui appelait le gouvernement fédéral à légiférer contre ce type de désinformation comme il l'avait fait pour l'industrie du tabac. Dans ce dernier cas, une restriction à la liberté d'expression avait été acceptée pour régler un problème de santé publique. M. Weisenberger reconnaît que la question est complexe. La solution, c'est toujours d'augmenter la transparence et la communication, dit-il. Si la plupart des Québécois et des Européens n'adhèrent pas au message des climato-sceptiques, c'est selon lui en raison de la diversité de la presse et des médias qui ont abondamment analysé le sujet. Je viens de vous lire des extraits de « Saine critique de la science », article écrit par Étienne Plamondon et Bon, collaborateur au journal Le Devoir le 23 mai.
Alors, l'article dont je veux vous faire part, c'est une introduction à différents articles dont je vous parlerai prochainement. Particulièrement, vous savez, il y a des chantiers extraordinaires actuellement. Je pense à la tour Burj Al Khalifa qui est terminée, qui est à Dubaï. Mais il y a une tour encore plus haute, la tour de 1 km de hauteur. le plus gros paquebot du monde qui est construit, qu'on est en train de construire actuellement, l'élargissement du canal de Panama. Donc, c'est quelques exemples dont je vous ferai part dans les temps à venir.
L'échangeur turco, c'est-tu la même?
Il n'est pas encore méga projet.
Ah bon?
Alors, malgré leur complexité, leur coût, de nouveaux grands projets sont lancés régulièrement. Et ils sont le reflet d'une recherche immuable qui réunit les scientifiques comme les industriels. Et celle d'aller toujours plus loin. Mm-hmm. Faire toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus long, toujours plus complexe. À travers les grands projets d'infrastructure, l'homme s'est toujours dépassé. Un peu comme pour défier la gravitation. Mm-hmm. Et je reviendrai peut-être dans un autre temps sur l'histoire, l'historique de ça. C'est pas nouveau, ça. Alors, pour la transformer, pour, en creusant un canal entre deux mers, un tunnel sous la montagne, créer un barrage extraordinaire sur un fleuve, en édifiant des ponts sur un estuaire, et des moyens de se déplacer dans les airs, sur le fer, sur l'eau, ou des machines de plus en plus sophistiquées pour produire de l'énergie. Toute l'ingéniosité de l'homme est déployée. Toutes ses connaissances sont incarnées dans la réalisation de chantiers de plus en plus ambitieux et aussi de plus en plus coûteux, il faut le dire. Mm-hmm. Mais quelle place tiennent aujourd'hui ces méga-projets qui donnent aux ingénieurs l'opportunité d'approcher l'excellence technologique et aux donneurs d'ordre l'occasion d'en tirer des bénéfices politiques souvent, hein? Mm-hmm, et économiques aussi. Y a-t-il encore des investisseurs publics ou privés assez puissants et assez motivés pour prendre de tels risques? Et la réponse est oui. Jamais autant d'argent n'a été consacré au méga-projet. Et ce qu'on appelle un méga-projet de chantier, c'est un projet qui dépasse le milliard de dollars. D'euros, excusez-moi. D'euros. Donc, on est à 1 300 millions, par exemple, c'est ça. Alors, les acteurs de tous les continents restent extrêmement déterminés à faire dans le gigantesque, même en sachant que les dérives budgétaires de tels chantiers sont pratiquement systématique.
Est-ce qu'on a des exemples de dérives budgétaires?
On a, par exemple, le chantier du tunnel sous la Manche, qui était gigantesque, qui a dépassé 80 % son budget initial. Mais il y en a un autre, ça s'appelle le Big Dig à Boston. C'est une autoroute qui passe pour désengorger la ville.
Oui, des beaux résultats. Sous la
220 % le dépassement coût.
Est-ce qu'il y a une commission Charbonneau dans ce coin-là?
Ils ne sont pas rendus là. Je ne vous parle pas de nos projets à nous ici, hein, c'est autre chose. Alors, le problème, c'est en un mot, la complexité. Il est devenu impossible pour un seul entrepreneur d'appréhender la totalité d'un projet. Quand Boeing ou Airbus, par exemple, conçoivent un nouvel avion, ils doivent partir en quête des meilleurs spécialistes mondiaux dans tel ou tel domaine. Mm-hmm. Le moulage des matériaux, par exemple, des matériaux composites. Sans compter que les contraintes se multiplient, sous l'accumulation de normes toujours plus strictes. Je pense aux normes environnementales, mm-hmm. qui sont omniprésentes, hein, et parfois directement sous la pression de populations qui s'estiment menacées par certains gros chantiers, mm-hmm. ce qui est de plus en plus vrai. À chaque fois qu'il y a un chantier, il y a des protestations.
Des
à chaque fois.
Des gens aussi.
La taille, la complexité, le savoir-faire, la sécurité. Pour des raisons de coût, ces grands programmes s'opèrent souvent à une échelle mondiale maintenant. On appelle comme une internationale des cerveaux qui draine son lot de complications. Mmh. Autre écueil à éviter, celui de l'audace technologique. Alors, même si ces projets sont stimulants, il faut faire attention aux tentatives d'innovation trop rapides, aux changements d'échelle trop brutaux. Rappelons simplement que la cathédrale de Beauvais, c'est loin tout ça, hein? A été élevé trop haut, trop vite, et elle s'est effondrée à deux reprises.
Oh, mon
et
Dieu.
On parle d'un chantier en 1284. Assez loin tout ça, hein? Mais quand même.
Époque,
alors, toute la question est de connaître les réelles capacités du moment et de ne pas brûler des étapes.
Est-ce qu'il y a des exemples de projets qu'on a dû mettre de côté, mais à notre époque? Là?
Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la navette spatiale américaine. L'objet le plus complexe jamais conçu à ce jour, qui avait 2,5 millions de composantes.
Mmh. Ah bon? OK.
Vous imaginez qu'est-ce que c'est? Mmh. Alors, dans les années 70, la NASA annonçait que ce vaisseau assurait un accès facile et bon marché à l'espace. Non seulement l'objectif ne fut jamais rempli, malgré 20 000 employés sous pression, mais deux appareils sur cinq se sont écrasés avec leurs astronautes, avec leur équipage. Okay. Donc, ce qui a fait que ça a été abandonné. Les grands chantiers vont-ils s'épargner de tels déboires? Plus leur complexité technique est grande, moins ils sont à l'abri. Et si, par exemple, la fusion nucléaire, ça ferait une forme d'énergie trop peu fiable ou coûteuse à produire. Mm-hmm. La motivation humaine peut être sans limite. L'impossible, toujours repoussé plus loin. Aujourd'hui, plus que jamais, les ingénieurs sont non seulement capables de tenter l'impossible, mais aussi de le réaliser. Et dans les semaines qui suivront, je vous donnerai des exemples de choses qui semblaient impossibles.
De construction extraordinaire.
Une tour d'un kilomètre, vous imaginez qu'est-ce que c'est, où on est rendu?
C'est
l'impossible, mais on est en train de le réaliser. Alors, c'était tiré de Science et Vie, et c'est un hors-série qui est paru en décembre 2014, mais qui est toujours à jour.
Oui, juste autour du coin, là.
Alors, on entendait « Everybody wants to rule the world » de Tears for Fears. Souvenir. Alors, je vous parle maintenant d'un tétraplégique qui actionne un bras artificiel par la pensée. C'est un texte publié sur le site de lapresse.ca par l'agence France Presse Washington le 21 mai. Une nouvelle neuroprothèse implantée dans le cerveau permet à un tétraplégique d'actionner un bras artificiel avec aise par la seule force de sa pensée. Une première donnant un espoir de mobilité à des amputés ou à des paralysés. Jusqu'alors, les chercheurs ont testé différentes approches de contrôle d'une prothèse par la pensée, dont le bras myoélectrique, actionné par le muscle ou attaché à des implants insérés dans la partie du cerveau contrôlant les mouvements mêmes. Mais ces techniques produisent souvent des mouvements saccadés, ce qui n'est pas le cas avec cette technique. Maintenant, Éric Sorteau, 34 ans, tétraplégique depuis une dizaine d'années à la suite d'une blessure à la colonne vertébrale, peut se servir d'un bras artificiel sans effort, par la seule force de sa pensée et de son imagination, expliquent les chercheurs dont les résultats de cet essai clinique étaient publiés dans la revue américaine Science.
Ça doit être assez complexe, là. Comment ça fonctionne, alors, cet appareil-là?
On explique ça. Éric Sorteau est la première personne au monde à avoir une prothèse neuronale implantée dans une région du cerveau où se forment les intentions, le cortex pariétal postérieur, ce qui lui donne la capacité de donner une poignée de main sans mouvement saccadé, de prendre un verre, de boire et même de jouer au jeu roche-papier-ciseaux. Le cortex pariétal postérieur se situe en amont dans le processus aboutissant à un mouvement, ce qui fait que les signaux sont plus en rapport avec l'intention d'agir qu'à l'exécution même du mouvement, explique le docteur Richard Anderson, professeur de neurologie à Caltech, qui a dirigé cette recherche. Le neurologue explique que quand on bouge le bras, on ne pense pas vraiment quel muscle activer et au déroulement détaillé du mouvement, comme par exemple le fait de lever le bras, de l'étendre, de saisir une tasse et de refermer sa main autour. Au lieu de ça, on pense au but du mouvement, à savoir l'intention, par exemple, de prendre le verre d'eau. Dans cette expérience clinique, ces chercheurs indiquent avoir réussi à décoder les intentions du sujet en lui demandant simplement d'imaginer l'ensemble du mouvement, mais pas ses multiples et différentes séquences. Ils ont pensé que les signaux provenant du cortex pariétal postérieur seraient plus faciles à utiliser pour les patients, produisant un processus de mouvement plus fluide. Les implants reliés au bras artificiel ont été posés en 2013 à l'hôpital Keck de Los Angeles. Depuis, Éric Sorteau s'est entraîné avec les chercheurs de Caltech et d'autres personnels médicaux pour contrôler le curseur d'un ordinateur et le bras télémanipulateur avec sa pensée. Il est parvenu à produire des mouvements intuitifs de la prothèse, exactement ce qu'espéraient les chercheurs. Le témoignage d'Éric Sorteau, en terminant, « J'ai été surpris par la facilité avec laquelle je pouvais contrôler le bras. Je me souviens d'avoir eu comme une sensation de sortir de mon corps et je voulais serrer la main de tout le monde. » On le comprend.
Oui, mais je me souviens d'avoir rencontré des gens anciennement avec la prothèse et ils devaient apprendre, par exemple, à prendre un verre sans le briser.
Ben oui, ou tenir un œuf dans sa main, c'est difficile.
Très, très difficile.
Mais ça doit être un petit peu dangereux. Ça vous est jamais arrivé, vous autres, de penser quelque chose? Mais on ne peut pas le faire parce que la bienséance ne veut pas.
Oui,
là,
mais le texte ne nous amène pas là.
D'accord.
Je rappelle que c'était un article publié sur lapresse.ca par l'agence France Presse Washington le 21 mai dernier. Alors, un autre texte maintenant, publié le 7 mai dernier sur lapresse.ca, toujours par la presse canadienne Montréal cette fois-ci. Le titre... Symptômes, méfiez-vous de Google. Les gens qui interrogent les principaux moteurs de recherche concernant leurs symptômes risquent d'obtenir des renseignements sans pertinence, qui mèneront à un autodiagnostic incorrect, à un autotraitement inapproprié et possiblement à d'autres problèmes de santé, prévient un chercheur australien. Le docteur Guido Zuccon de l'Université technologique du Queensland et ses collègues de l'Université technologique de Vienne en Autriche ont évalué la performance des moteurs Google et Bing lors de recherches à thématique médicale. Le docteur Zuccon et les autres chercheurs ont tout d'abord constaté que seulement 3 des 10 premiers résultats étaient réellement pertinents pour un autodiagnostic et que la moitié des 10 premiers résultats étaient quelque peu pertinents. Les chercheurs avaient montré à leur sujet des photos de problèmes médicaux courants comme la jaunisse, le psoriasis ou l'alopécie. Ça, c'est l'accélération de la chute des cheveux et des poils. En leur demandant quels termes ils utiliseraient pour interroger les moteurs de recherche. Puisque seulement 3 des 10 premiers résultats étaient vraiment utiles, les internautes continuent à fouiller, ce qui les lance sur des pistes erronées. Il prévient que les internautes risquent alors de souffrir de cyberchondrie, ce qui engendrera de nouvelles recherches et ne fera qu'accentuer leurs inquiétudes. Google a déjà indiqué que 5 % des 100 milliards de recherches qu'il traite chaque mois portent sur des questions de santé. Des études antérieures avaient constaté que 35 % des adultes américains ont déjà fouillé le web pour s'auto-diagnostiquer un problème de santé.
Ça crée un problème actuellement, d'ailleurs, aux médecins.
Tout à fait.
Hein?
Tout à fait.
Les gens vont y voir, puis ils ont eu un mauvais
traitement. Et c'est presque n'importe quoi, parfois.
Ben oui, c'est souvent n'importe quoi.
Le Dr Zucken souligne que les moteurs de recherche sont véritablement efficaces lorsqu'on connaît le nom exact de la maladie. Alors, c'était cette fois-ci un texte publié le 7 mai dernier sur le site lapresse.ca.
Kiosque Magazine.
Et cette fois-ci, on part en voyage.
Ah oui?
Mais dans des conditions bien particulières. Voyager avec une déficience auditive et visuelle. C'est un article qui est publié dans la section Voyagerie de la revue Le Baladeur de l'organisme Kéroule, dans le numéro d'hiver 2015. La revue Le Baladeur publie des articles sur des questions de tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte. Alors là, présentement, je change de personnalité, je vous avertis.
On va te donner une chance.
OK, merci. Bonjour à vous, chers baladeurs. Je me présente Jade Champagne-Provost, 24 ans. Je suis une passionnée des voyages. J'adore apprendre et goûter à tout plein de cultures diversifiées. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu une grande force de caractère et surtout, j'ai toujours voulu conserver mon autonomie malgré mes deux handicaps, dont une surdité profonde aux deux oreilles ainsi qu'une rétinite pigmentaire. L'ensemble de ma maladie, c'est le syndrome d'Usher de type 1, qui est une maladie très rare. Mes parents m'ont annoncé ma maladie vers l'âge de 9 ans et c'est à partir de ce moment que je me suis dit que je voulais faire et voir le plus de choses possible avant de perdre la vue, dont faire le tour du monde. Heureusement que je suis né dans une génération où la technologie est avancée, car aujourd'hui, je peux entendre grâce à l'implant cochléaire depuis maintenant 21 ans. On me l'a implanté seulement à l'oreille gauche. En ce qui concerne ma vue, je n'ai aucune vision périphérique, c'est-à-dire qu'il me reste 10 degrés de vision. Mon champ visuel peut diminuer comme il peut rester stable. Pour l'instant, ma vue baisse de plus en plus, alors dépêchons-nous de voyager. En 2011, j'ai reçu l'invitation de ma tante Nicole pour aller lui rendre visite en Hollande pour 2 semaines. C'est quand même 8 heures d'avion. Seul, ce n'est pas rien. N'oubliez pas, il existe toujours une façon de voyager seul de façon adaptée, autonome et sécuritaire. Il faut toujours l'être, mais encore plus quand nous avons deux handicaps. Car pour être parfaitement autonome, il faut avoir une bonne vision ainsi qu'une bonne audition afin de ne manquer aucune information pertinente. C'est-tu drôle? J'en ai aucun de ces deux avantages-là. Alors, comment vais-je faire pour voyager?
Alors, un aéroport, c'est vraiment énervant avec toutes nos facultés. Comment Jade s'est-elle débrouillée?
C'est à ce moment-là qu'elle s'est organisée pour avoir une accompagnatrice à son arrivée à l'aéroport. Elle était au moins au courant de mes deux handicaps. Alors, c'était un bon stress en moins. Rendue à l'aéroport, elle m'a accompagnée à toutes les étapes avant de franchir les douanes à l'embarquement. Tout s'est déroulé pour le mieux et tout le monde était rassuré. L'assistante en question avait averti les hôtesses de l'air de ma situation. L'une d'entre elles m'a tout de suite accueilli et m'a conduite à mon siège. Je me suis alors dit, ce n'est pas si mal d'être handicapée. J'avais été traitée comme une princesse. Dès l'arrivée à l'aéroport d'Amsterdam en Hollande, ma tante et son conjoint m'attendaient à la sortie. Pour faciliter les choses, je leur avais demandé de se vêtir de façon flamboyante pour pouvoir les repérer plus rapidement. Je leur avais aussi demandé qu'ils se placent en première rangée. Il faut savoir que la ville d'Amsterdam est très peuplée. En plus, au moment où j'y suis allé, c'était la fête de la reine. Pas la reine nous autres, là, la reine...
Leur reine.
Et cette journée-là, nous étions allés dans le cœur d'Amsterdam. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais pas à ce que ça soit bondé à ce point. Imaginez-vous être dans une foule de gens qui courent dans tous les sens comme des poules pas de tête et voir comme dans le trou d'un entonnoir. Disons que le mal de tête survient assez rapidement. J'avais aussi beaucoup de difficultés à repérer ma tante facilement. Alors, je lui ai demandé qu'elle me tienne le bras gauche, puisque j'entends seulement de l'oreille gauche. C'est la première fois que je voyageais avec ma tante. Alors, il fallait trouver une façon de nous adapter le mieux possible pour que ce soit plus agréable, autant pour elle que pour moi. Pour ce faire, je lui ai montré quelques trucs. Par exemple, qu'elle me tienne la main et qu'à chaque fois qu'il y a une marche à descendre, qu'elle descende ma main vers le bas, pour m'aider à indiquer le nombre de marches, et vice-versa pour monter les marches. Par contre, ce truc-là, j'en ai plus besoin lorsque l'obscurité du soir arrive, car dans mes yeux, j'ai des cônes et des bâtonnets. Les cônes servent à la vision du jour, et les bâtonnets servent à la vision périphérique. C'est ce qui explique pourquoi, le soir, c'est plus problématique pour moi. C'est la même chose pour communiquer le soir. Dans ma situation, c'est plus compliqué. Quand j'avais une meilleure vision, je pouvais bien lire sur les lèvres. Mais là, ce n'est plus le cas. Alors, quand j'éprouvais de la difficulté à comprendre, je demandais à ma tante d'ouvrir la flashlight de son cellulaire et d'éclairer ses lèvres. Au moment où nous allions manger au restaurant, la première chose que je demandais, c'est qu'on nous place à une table bien éclairée. Comme vous le savez, dans un restaurant, ce n'est pas toujours évident de trouver une table parfaitement éclairée comme à la maison. Dans ces moments-là, je prenais soit mes lunettes ou je prenais mon téléphone pour éclairer mon menu. J'ai aussi trouvé un autre truc. J'ai avisé le serveur qu'au moment de commander, il serait préférable qu'il me touche l'épaule du côté où il se tient pour m'aider à le repérer plus facilement. Par contre, en Hollande, le menu était en hollandais ou en anglais, et je ne parle pas trop l'anglais. Eh bien, pour ça, on ne peut rien y faire, malheureusement. C'est juste à moi d'apprendre comme du monde.
Vous savez, ça m'est arrivé au cours de voyage de rencontrer des gens qui avaient une déficience visuelle particulièrement. Mm-hmm. Et les premières fois, je me demandais mais pourquoi ces gens-là voyagent. Et c'était une découverte pour moi. En ce sens que la personne qui l'accompagnait lui décrivait. Mm-hmm. J'ai même vu en safari au Kenya. Ah, oui. Mm-hmm. La personne lui décrivait ce qu'elle voyait et... Elle était capable de visualiser.
Ben oui.
Et j'ai trouvé ça, ça a été une découverte pour moi. Ça a été extraordinaire.
Tout à fait fascinant. Je viens de vous lire des extraits de l'article « Voyager avec une déficience auditive et visuelle » qui était publié dans la section « Voyagerie » de la revue « Le Baladeur » de l'organisme « Kiroul » dans le numéro d'hiver 2015.
vais essayer de vous convaincre d'aller en croisière. Cette bonne raison de partir en croisière, c'est paru dans la presse du 21 mars 2015. Vous savez que les croisières sont de plus en plus populaires. Croyez ou non, il y a un record de 23 millions de passagers qui vont être atteints cette année. C'est énorme, hein? Et ça, c'est selon l'Association internationale des compagnies croisières. Pourquoi on devient accro à ce type de voyage?
Ben oui, pourquoi donc?
D'abord, la diversité du produit. Les adeptes de ce mode de voyage le savent, la variété des croisières proposées est absolument phénoménale. Alors, bien que les grands classiques restent les croisières océaniques dans les Caraïbes, entre autres choses, en Méditerranée. Il est désormais possible de faire des croisières maritimes en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, un peu partout, en Antarctique même. En plus des croisières en mer, il est aussi possible de faire des croisières fluviales sur de nombreux cours d'eau dans le monde. La Seine en France, c'est récent, on en a parlé dernièrement. La Volga en Russie, le Pô en Italie, le Nil en Égypte. Yangtze, ça devient populaire, Yangtze, en Chine, de plus en plus. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité fort intéressante. Autre bonne raison, la chance de voir plusieurs destinations. Un des principaux avantages de partir en croisière est la possibilité de visiter plusieurs endroits dans un minimum de temps. Alors, cette façon de voyager vous permet donc de découvrir un mélange de paysages, de cultures et d'expériences différentes en un seul voyage. Imaginez, chaque jour ou presque, vous débarquez dans une nouvelle destination et chaque fin de journée, vous pouvez vous amuser, vous reposer pendant que le bateau vogue vers de nouveaux horizons. Mm-hmm. Évidemment, ce n'est pas une façon d'approfondir un pays. C'est une façon de butiner, de découvrir et de dire, ben, peut-être un peu plus tard, je pourrais aller un peu plus loin. Et ça donne aussi la possibilité de découvrir des endroits où vous ne pourriez pas aller autrement. Je pense, par exemple, aux Galapagos, en Alaska. C'est la façon d'aller découvrir en croisière. Très populaire, l'Alaska, d'ailleurs. Hein?
Et ça doit coûter cher, Michel, non?
Bien, le rapport qualité-prix est quand même exceptionnel. L'intérêt des croisières réside dans le prix. Le rapport qualité-prix de ce type de vacances est devenu imbattable, même par rapport aux voyages tout inclus, de façon surprenante. Les voyages tout inclus dans le Sud, hein, qui sont très populaires.
Oui.
Certaines croisières reviennent parfois à moins de 100 $ par jour, par personne.
Tout inclus.
Oui, ben, je veux dire oui. Il n'y a aucun hôtel qui peut rivaliser avec ça. Là où les croisiéristes ou les agents de voyage, les agents de croisière font leur argent, c'est dans tous les extras. L'achat des photos, la vente du vin et des choses semblables. Si vous ne prenez que la croisière, c'est quand même de plus en plus modique. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est que vous avez le même niveau de service quelle que soit la qualité de votre cabine. Que vous ayez une cabine intérieure, une suite junior ou etc., vous avez le même accès au repas et au même service. Okay. Il n'y a plus de classe ça a été auparavant.
Okay.
Vous avez aussi le confort. Les navires de croisière n'ont rien à envier aux grands hôtels ou aux complexes hôteliers. Ils se distinguent par le confort, le luxe de leurs installations. Chaque navire propose une vaste gamme de cabines adaptées à toutes les exigences et aménagées dans un style étonnamment moderne et fonctionnel. Toutes les cabines sont notamment équipées d'un téléviseur, écran plat, d'un sèche-cheveux, d'un coffre-fort, d'un mini-bar. Si votre budget vous le permet, vous pouvez opter pour des cabines avec balcon, ce qui est de plus en plus populaire, d'ailleurs, ce qui vous permet d'admirer l'immensité qui s'étend sous vos yeux. Vous pouvez avoir une suite junior et des grandes suites à 25 000 $ la croisière. Vous avez aussi le choix dans la restauration.
Oh, la restauration. Est-ce que la nourriture qui est servie là, est-ce que les services, ça se compare à des restaurants?
On a, en fait, ce qu'on a, c'est l'embarras du choix en matière de restauration. Les repas dans les croisières sont renommés pour être d'excellente qualité. Pour le déjeuner, le dîner, les repas sont généralement préparés sous forme de buffet. Vous pouvez manger quand vous voulez. Il est également possible de vous sustenter en salle à manger avec service plutôt qu'au buffet. Et vous avez pour le soir aussi des restaurants de spécialité. Vous allez avoir la spécialité italienne. Et c'est là que les coûts arrivent, lorsqu'on parlait de coûts.
Oui, 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 oui.
C'est la façon de pouvoir rentabiliser la croisière, si vous voulez. D'autres raisons, ben, la variété des activités à bord. Vous avez des divertissements de toutes sortes. Les navires de croisière sont de véritables centres de loisirs flottants. Il y a des activités pour tous les goûts, telles que des salles d'exercice, des piscines, des baignoires à remous, des terrains multisports, salles de cinéma, des boutiques et discothèques et casinos, et certains bateaux même. Vous avez des murs d'escalade. Absolument. Des murs d'escalade. Vous avez des glissades d'eau, des mini-golfs et des patinoires intérieures avec spectacle.
Mais il n'y a rien pour les vélos jusqu'à présent.
Il n'y a pas de...
Ah, peut-être dans la salle d'exercice.
Il
n'y
a pas de vélo actuellement. Oui, vélo sur place.
Ben oui.
Et vous avez aussi la panoplie des excursions qui sont offertes. À chaque port, vous pouvez avoir des excursions incroyables. Donc, le prix de base de la croisière est très, très, très accessible, mais ce sont les extras qui vont évidemment augmenter le coût. Alors, voilà, mon cher Yvan.
Merci.
De bonnes raisons de partir en croisière.
Ben, je vais y réfléchir
On
encore.
Va réfléchir encore.
Et c'était dans la presse du 21 mars.
Merci.
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont mes chaînes. Perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne. Perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Serai capitaine de mon bâtiment, tout en bois de chêne. Perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps?
Alors, nous écoutions Gilles Vigneault, le chêne, où j'ai planté un chêne.
Mm-hmm.
Il y a un lien ici. Saviez-vous qu'on peut donner un coup de pouce aux arbres qui sont plantés dans les rues près de chez nous?
Je l'ignorais.
Hein? On en parle dans le texte que je vais lire, qui est le titre, c'est « Donnez-leur un coup de pouce » de Sylvie Maurice et Marie-Josée Bernard, publié sur le blog du Jardin botanique espacepourlavie.ca le 15 mai dernier. Comparé à leurs congénères forestiers, les arbres de ville, et plus particulièrement ceux de rue, mènent une existence pénible. Souvent considérés comme de simples poteaux et stressés par des conditions extrêmes, espaces de croissance restreints, sol pauvre et compacté, pollution, chaleur intense, manque d'eau, blessures, leur espérance de vie est considérablement réduite. Bien que les arbres de rue soient de responsabilité municipale, vous pouvez contribuer à leur bien-être en suivant ces conseils pratiques. D'abord, pour la protection du tronc, évitez d'y cadenasser votre bicyclette, d'y fixer des objets comme des affiches ou des décorations, ou d'y appuyer divers matériaux. Ces gestes causent des blessures qui deviennent des portes d'entrée pour les maladies et les ravageurs. Les arbres blessés voient leur longévité diminuer et peuvent même en mourir. Attention aux sacs d'ordures. Ne déposez pas vos sacs de déchets dans les carrés d'arbres. Perforés ou déchirés, les produits qu'ils contiennent peuvent contaminer le sol. On parle également des dommages causés par les chiens. Ne laissez pas votre chien uriner sur le tronc.
Comment on fait ça?
Ah, ben on l'amène ailleurs.
Okay. On l'entraîne, son
chien. On l'amène dans un parc à chiens. Donc, ne pas le laisser uriner sur le tronc des arbres ou à leurs pieds parce que l'urine endommage l'écorce et les racines en raison de son acidité, de sa concentration élevée en urée et en ammoniac et de sa teneur en sel. Les pipis de chiens répétés entraînent le dépérissement des arbres. Ramassez aussi les excréments laissés par votre toutou.
Bien, pour aider à cette situation-là, est-ce qu'on peut planter des fleurs dans le carré d'arbres qui appartient aussi à la municipalité?
Alors, pour ce qui est de l'utilisation des carrés d'arbres, avant de jardiner dans un carré d'arbres, communiquez avec votre arrondissement ou municipalité pour connaître les règles en vigueur. En raison de la proximité de la rue, toutes sortes de contaminants peuvent se retrouver dans le sol et sur les végétaux. Il est donc sage d'éviter de cultiver des plantes alimentaires et d'opter plutôt pour des vivaces ou des annuelles ornementales capables de résister aux conditions difficiles. On parle d'ombre, de sécheresse, qui sont souvent présentes sous un arbre de rue.
Bon, vous savez, la semaine passée, on a parlé justement de certains endroits, à Rosemont particulièrement.
Oui, okay. Arrondissement.
De certains arrondissements où les gens avaient pris en charge
oui, tout à fait.
De fleurir
leur
la rue.
D'arbre, tout à fait.
Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être mieux de demander...
Il faut demander avant.
Ben, j'espère. Oui.
Ces arbres ont aussi des racines qui ont besoin d'air. Évitez de rehausser ou d'abaisser le sol au pied des arbres ou de le compacter, car les racines respirent. N'ajoutez jamais plus de 15 cm de terre ou de compost sur les racines pour ne pas les asphyxier. Laissez également une zone dégagée d'environ 1 mètre autour du tronc pour éviter les risques de pourriture du collet. C'est la base du tronc.
Oui, mais ça, en passant, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, parce que c'est la ville qui s'occupe de ça.
Effectivement,
fond, hein.
Mais il ne faut pas le faire à leur place, dans le fond.
Ouais.
Pendant les canicules, arrosez l'arbre de rue situé devant votre résidence en profondeur, une fois par semaine, idéalement tôt le matin ou en début de soirée. En tout temps, respectez la réglementation municipale sur l'usage de l'eau, évidemment.
J'étais pour le dire, les jours impairs.
Oui, ça dépend. On peut également nourrir le sol, épander annuellement un peu de compost dans le carré d'arbre en l'incorporant légèrement. L'application de quelques centimètres de paillis organique, ça peut être du paillis de cèdre, du bois raméal fragmenté, etc., aidera à préserver l'humidité du sol, et à limiter la croissance des herbes indésirables. Le paillis ne doit pas être en contact avec le tronc. Question de désherbage. Si un nouvel arbre a été planté en face de chez vous, enlevez les mauvaises herbes poussant dans la cuvette d'arrosage. Et finalement, en cas de problème, ne taillez pas l'arbre et n'appliquez aucun produit sur les blessures. Pour signaler un problème, ça peut être une branche pendante, cassée, des insectes ou des maladies, communiquez avec votre arrondissement en composant le 311 ou avec votre municipalité.
Tu mentionnais au début, Marie, que les arbres étaient la responsabilité municipale.
Les arbres de rue.
Oui. Les arbres de rue, c'est ça. Bien, à Laval, ils ont résolu le problème. Ils ont donné des arbres aux résidents. Oui. Ils ont dit, vous en occupez.
À plusieurs endroits en Europe,
oui,
c'est comme ça.
Oui, sauf que vous savez, c'est que si l'arbre est malade ou quoi que ce soit, que vous devez l'abattre,
ouais,
vous avez la responsabilité.
Votre responsabilité.
Ah, et vous savez qu'est-ce que c'est le coût pour abattre
c'est
un arbre?
Très cher.
Ah, ben, ça peut être à 500,
oui,
700 $ dépendant de...
Ouais.
Ah, c'est une façon de faire.
Alors, j'ajoute pour cet article, Sylvie Maurice et Marie-Josée Bernard, elles sont préposées au renseignement horticole et elles ont rédigé ensemble ce texte. Elles remercient M. Guillaume Couture, qui est ingénieur forestier au service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, ainsi que M. Alain Cogliastro, qui est botaniste et chercheur au Jardin botanique de Montréal, parce qu'ils ont collaboré. Je rappelle que c'était un texte publié sur le blog du Jardin botanique espacepourlavie.ca le 15 mai dernier.
Est-ce que vous avez entendu parler du Pont des Arts à Paris?
Oui. Oui.
À Pont des Arts, parce qu'il y a une nouvelle aujourd'hui. Avec on commence aujourd'hui. Il y a trop de romantisme à Paris. Hein? La mairie de Paris a commencé à retirer des centaines de milliers de cadenas d'amour qui sont accrochés au célèbre Pont des Arts. On jette à... Mathieu, on est passé par là, hein? Un cadenas au Pont d'Amour, il vient de disparaître. Il enjambe la Seine et il offre une des plus belles vues de la capitale. Mais l'an passé, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée. Mm-hmm. Alors, on va retirer près de 1 million... On a commencé à retirer près de 1 million de cadenas, soit 45 tonnes. Et vous savez que c'est pas unique à Paris. Il y en, de Rome à Moscou, en passant par Berlin, des cadenas d'amour ont estimé à l'excès dans de nombreuses villes. Et on nous dit que ça viendrait de Rome, à partir d'un roman qui a été écrit, cette chose-là. Et c'est devenu mondial. Il y en a jusqu'à Marrakech et même en Chine. Mmh. Est-ce qu'il y en a à Montréal? Oui, il y en a à Montréal, mais c'est pas un pont de l'amour. C'est sur la rue Crescent, près du magasin de jeans Parasuco. C'est au quai de l'horloge aussi, on me dit. Ah, ben voilà, au quai de l'horloge. C'est près d'une boutique de jeans, chez rue Crescent, il y en a. Okay. Mais c'est une clôture de l'amour. Bon, peut-être un petit peu moins romantique hein, que le pont de l'amour. Voilà.
Alors, je vous reviens avec une histoire dont je vous ai parlé il y a une couple de semaines. L'avion révolutionnaire propulsé uniquement par énergie solaire, Solar Impulse 2, s'est lancé dimanche matin, le 31 mai, depuis la Chine, à l'assaut du Pacifique. Mais il a été forcé de se poser à Nagoya, au Japon, en raison de la détérioration de la météo sur sa route prévue vers Hawaï, ont annoncé lundi, hier, les organisateurs. Ce départ depuis Nankin, où l'avion était cloué depuis le 21 avril, avait été reporté à plusieurs reprises déjà en raison d'une météo défavorable. Aucune indication n'était possible lundi, n'était disponible plutôt lundi sur le temps que prendra cette immobilisation. Jamais Solar Impulse 2 n'avait volé au-dessus d'un océan qui n'était resté en l'air plus de 24 heures. C'est dire si cette traversée du Pacifique, sur 8500 km et 130 heures de vol, reste un défi technologique et un exploit aéronautique historique. Puis je vous tiendrai au courant des suites.
Mm-hmm. Alors moi, j'enchaîne.
Oui.
Je vous parle de petits chatons, mais ce sont des chatons qui ne miaulent ni ne ronronnent. Ils ont le poil doux comme des petits chats. Il existe plusieurs sortes de saules, de l'arbuste au majestueux saule pleureur, et tous produisent des chatons. Mais celui qui remporte chez nous la palme du bouquet le plus évocateur du printemps est sans doute le saule discolore, avec ses gros chatons gris-blancs, cordés à la queue leuleu sur ses branches comme une procession de mignonnes chenilles. Les saules étant dioïques, les fleurs chatons mâles et femelles éclosent sur des plans différents. Espèce indigène est la plus commune en Amérique du Nord au sein de sa large famille. Il y en a plus de 350 dans le monde. Le saule discolore hésite entre le petit arbre et le gros arbuste, mais préfère sans conteste l'humidité. Son écorce interne a déjà servi à la fabrication de l'aspirine.
De l'aspirine?
Tout à fait.
Oh!
Vous savez, il y a une chaîne de télévision publique de Suède qui diffuse ce printemps une série d'entretiens intimes entre un psychothérapeute et les chefs des 8 partis politiques qui s'affronteront aux prochaines élections. Prochaines élections qui sont prévues en septembre. L'idée est que les électeurs aient une connaissance approfondie des valeurs et des idéologies des candidats. Et l'animateur thérapeute interroge les dirigeants sur leur enfance, leur vision de la société, entre autres sujets. Alors, je ne sais pas si ça aura un certain succès.
On est dans quel pays?
En Suède.
En Suède. En Suède. On a des élections qui s'en viennent en octobre.
Mes amis, voilà qui met un terme à notre émission.
Voilà.
On vous remercie de votre fidélité et restez avec nous. Hein. On est heureux de vous avoir. Et voilà, je remercie mes collègues ici, Marie. Marie Lalande et Yvan Deslauriers. Et on remercie aussi notre nouveau ici à la mise en onde,
oui.
Mathieu Tessier. Ça nous fait plaisir de l'avoir.
Pendant que Clotilde lui
fait la bise. Alors, on vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.